France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du Festival de Cannes, nous vous proposons la nouvelle diffusion d'une émission sur Jean-Luc Godard.
Je ne sais pas écrire, je fais des fautes d'orthographe, je ne sais pas parler, vous le remarquez, vous le voyez bien. Donc tout ce que je sais, c'est faire des films. Moi, je ne sais rien faire d'autre.
Mille ans d'histoire. Depuis plus de 40 ans que ses films, ses engagements politiques et son goût pour la provocation déconcertent même ses admirateurs, Jean-Luc Godard n'a jamais cessé de déranger. Et si tout le monde a vu les films qui l'ont rendu célèbre, À bout de souffle, Le mépris ou Pierrot le fou, il ne remplit plus aujourd'hui les salles de cinéma. « Je suis le plus connu des gens oubliés », disait un jour Godard. Et quand on se souvient de lui, c'est surtout pour ses tout premiers films. Quand, en 1960, dès son premier long-métrage, Godard entrait par la grande porte dans l'histoire du cinéma, en même temps qu'une bande de copains iconoclastes qu'on appelait alors la Nouvelle Vague.
La jolie fille, le vilain garçon.
Scénario de François Truffaut.
La mort. La petite américaine, le voleur d'auto,
supervision de Claude Chabrol,
le photographe italien, les anarchistes,
un film de Jean-Luc Godard, avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo,
À bout de souffle,
le meilleur film actuel.
New York Herald Tribune.
Constellera, il n'y a pas d'horoscope.
Qu'est-ce que c'est l'horoscope ?
L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi ?
Moi aussi. New York Herald Tribune !
Cruelle, idiote, sans cœur, lamentable, lâche, méprisable.
Oui, oui.
Tu ne sais même pas mettre ton rouge à lèvres. C'est terrible. Brusquement, je te trouve affreuse.
Dire ce que tu veux, ça m'est égal. Qu'est-ce que tu fais ?
J'enlève ton chandail.
Pas maintenant, Michel.
François Demers, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a entendu il y a quelques instants Jean-Luc Godard présenter lui-même son film À bout de souffle, qu'il appelait en toute modestie le meilleur film actuel. C'était en 1960. Ce qui est extraordinaire, vous le rappelez dans un livre sur Godard qui vient de paraître chez Gallimard Découverte, c'est que c'est à la fois, À bout de souffle, un de ses films les plus connus, un de ceux qui a eu le plus de succès et en même temps son tout premier long métrage. Pour Godard, et c'est assez rare dans le cinéma, on peut dire que son coup d'essai était un coup de maître.
Oui, c'est tout à fait vrai. Cela dit, ce coup d'essai était dans un contexte particulier, celui de l'explosion de la Nouvelle Vague. Godard était porté, en fait, par la dynamique de ses collègues, amis et prédécesseurs, d'ailleurs, légèrement.
Qui avaient participé au film, d'ailleurs, il parle de Truffaut, il évoque
tout à fait.
Évidemment Chabrol.
Tout à fait. D'ailleurs, bon, il évoque Truffaut, il évoque Chabrol. De fait, Truffaut a une influence assez légère sur ce film, puisque tout simplement...
Il n'y a pas eu de scénario.
Il n'y a pas eu de scénario. Le scénario, c'est-à-dire le synopsis, c'est-à-dire le bout de texte sur lequel Beauregard a accepté de mettre quelques sous, a été écrit... Sur un quai de métro quelques années auparavant. C'est un prétexte.
Alors, À bout de souffle, c'est aujourd'hui un classique. À l'époque, c'était révolutionnaire. En quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ce film ?
Oh, il y avait d'abord un ton, évidemment. Un ton extrêmement aigu, en quelque sorte, extrêmement rapide. Aussi, évidemment, une manière de filmer tout à fait inédite et surtout une manière de monter tout à fait inédite.
Oui, alors il paraît que le film étant trop long, on a demandé à Godard de le couper et il a fait ce qu'aucun réalisateur n'avait jamais fait avant lui. Au lieu de retirer des scènes, il a coupé dans les scènes, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça. Enfin, lui-même s'est aperçu que le film était 40 minutes trop long, en effet, et plutôt que de tailler taillé, de faire des coupes claires, il a fait des coupes sombres, c'est-à-dire qu'il a effectivement taillé dans le vif. Et il a inventé, en fait, c'était exactement une sorte de provocation par rapport à la grammaire classique du cinéma. C'est-à-dire que quand vous avez un champ, vous avez un contre-champ, et là, il coupe le contre-champ, vous n'avez plus que un personnage seul.
Alors, François de Maire, j'étais étonné en vous lisant de voir assez peu, vous écrivez beaucoup sur le Godard cinéaste, on ne voit pas la personne Godard, l'homme Godard qui est né, vous le rappelez quand même, en 1930, à Paris, mais il est suisse, hein, je crois, par sa mère, et puis qui s'intéresse très vite au cinéma. Au fond, c'est peut-être justement pour cette raison que vous parlez peu du Godard, de chair et de sang, parce que pour lui, la vie, c'était le cinéma, et uniquement.
Oui, très exactement. D'ailleurs, l'exposition actuelle de Beaubourg, Voyage en Utopie 1947-2006, 1947, c'est en fait sa découverte du cinéma. Comme si il se pensait né au monde avec le cinéma.
Et ne sachant rien faire d'autre. On l'a entendu en début d'émission, la voix de Godard disait « je ne sais pas faire d'autre chose ».
Oui, c'est tout à fait vrai d'ailleurs. C'est tout à fait vrai. À partir du moment où il a commencé à faire du cinéma, il n'a strictement pas arrêté. Il n'a d'ailleurs jamais disparu de la scène.
Alors avant de le faire, il fait ce que font tous les gens de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il va d'abord le regarder, le voir, le découvrir à la Cinémathèque, dont il est un pilier. Puis il est critique de films, avant même de faire ses premiers films, au Cahier du cinéma notamment. Puis il se fait les dents, comme les réalisateurs de la nouvelle vague, sur des courts-métrages. Il y a Opération Béton, qui est un documentaire sur la construction d'un barrage auquel il a participé. Une femme coquette, Charlotte et Véronique, une histoire d'eau, E-A-U, Charlotte et son Jules. Alors, il fait débuter Belmondo que l'on retrouve dans À bout de souffle, et plus tard dans Pierre ou le fou. Mais entre-temps, en 1963, Godard signait le deuxième de ses grands succès, Le Mépris, un succès d'ailleurs qui le laisse de marbre quand un journaliste de la RTF lui téléphonait en 63 pour lui faire parler de son film.
Allô ?
Allô, Jean-Luc Godard pour la RTF.
Oui, ne quittez pas.
Allô ? Allô, Jean-Luc Godard ?
Oui ?
Ce soir sort votre film, Le Mépris. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait et de la version qui sort ce soir ?
Ah oui, oui, moi je suis toujours content. Si je signe quelque chose, j'honore toujours ma signature.
Bien, vous avez eu tourné avec Brigitte Bardot, c'était la première fois. Est-ce que vous avez été content de cette confrontation entre vous, le metteur en scène de La Nouvelle Vague, et Brigitte Bardot qui est l'élément le plus extraordinaire de notre cinéma ?
Oui, elle avait fait un bon film autrefois, c'était Dieu crée la femme, ça lui a donné l'occasion d'en faire un deuxième.
Je crois que vous avez dit vous-même que ce film était très différent de vos précédents.
Oui et non, je pensais ça au départ, finalement, tout se ressemble et tout diffère toujours.
S'il y a une différence, en quoi est cette différence ?
Il a coûté plus cher.
Tu vois mes pieds dans la glace ?
Oui.
Tu les trouves jolis ?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi ?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses ?
Aussi.
Je vois mon derrière dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses.
Oui. Très.
Tu veux que je
me
dépêche ?
Non. Ça va.
Et mes seins, tu les aimes ?
Et c'était Michel Piccoli, Brigitte Bardot dans la scène la plus extraordinaire du film Le Mépris. Très belle, une belle musique également de Delerue. Et en même temps, vous écrivez, François de Maire, que cette scène a été rajoutée.
Oui, tout à fait. Cette scène n'avait pas été filmée dans le premier projet de Godard. Godard n'avait pas l'intention de montrer cette ouverture-là, et surtout de montrer ce que le producteur italien attendait, c'est-à-dire, bien entendu, Brigitte Bardot nue, puisqu'elle était, disons, le sexe symbole de l'époque, et c'est pour ça qu'il avait payé.
Et donc, il a cédé, alors, ce qui n'est pas trop son caractère, généralement. Ah. Il y a une chose étonnante, on l'a bien senti dans l'interview faite de Godard, juste avant qu'on entende l'extrait de film, avec ce journaliste de la RTF, c'est, quand on dit à Godard, qu'est-ce qu'il a de nouveau de film ? Bon, c'est un gros budget. Alors, c'est vrai que c'était relativement nouveau pour lui, il n'a pas eu beaucoup de gros budgets. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que vous dites qu'il n'aimait pas les gros budgets, ce qui est plutôt rare pour un cinéaste. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'aimait pas, c'est que les producteurs dictaient leur loi.
Oui, très exactement. En fait, la Nouvelle Vague est un mouvement de films à petit budget. Et Godard, au fond, est parmi ses collègues, celui qui a pris ce principe le plus homo, en quelque sorte. Et pour lui, un gros budget, c'est l'absence d'indépendance. Un petit budget, de petites équipes légères, c'est la garantie d'une indépendance créatrice totale. Et donc, il a accepté de jouer le jeu d'un budget, disons, conséquent avec une star reconnue ici. Il ne s'en est pas mordu les doigts au plan esthétique, mais ça a été difficile.
Autre caractéristique, ça vous insistez beaucoup dessus, on la voit dans tous les films de Godard, l'histoire compte moins justement que l'esthétique dont vous venez de parler, même dans Le Mépris, même dans Pierrot le Fou, au fond, vous l'écrivez, François Nemaire, le côté polar, c'est un prétexte dans ces films.
Oui, c'est assez vrai. Disons que l'histoire au sens classique, à savoir un récit qui va quelque part, c'est toujours chez Godard secondaire. Ou du moins, ça n'est qu'un des éléments de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est ce qu'on voit. En plus, Godard travaille les histoires, les sujets, si vous voulez, de sorte à casser, en quelque sorte, le rythme, à réveiller le public, en quelque sorte, par un claquement de doigts. Donc, c'est là des stratégies par rapport aux histoires qu'il utilise. Il ne méprise pas les histoires.
On le voit quand même, on voit qu'il ne les méprise pas, mais on voit qu'elle est secondaire aussi dans un autre immense succès de Godard en 65, c'est Pierrot le Fou. Et puis, alors là, par exemple, aussi, un film comme tous ces films, et ça, c'est un travers de Godard qu'on voit dans tous ces films, truffé de citations, ça se termine, on le sait, par ce poème de Rimbaud, « Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil ». Et il y en avait partout, toujours, dans les films de Godard.
Ah oui, tout à fait. Et les citations, d'ailleurs, ne sont pas que des citations littéraires. Cette même citation de Rimbaud est en fait aussi une citation d'un film de Mizoguchi, qui finit exactement de la même façon. Les citations sont empilées, en quelque sorte, sans parler des citations picturales. Mais ça, c'est un des traits de l'esthétique de Godard, quasiment depuis le début, à savoir qu'il monte des choses existantes, des images existantes, des idées existantes, des voyez. Donc c'est sa conception du cinéma.
Alors c'était le cas donc dans Pierrot le Fou en 65, deux ans avant un film de facture très différente, La Chinoise, dans lequel, en pleine révolution culturelle en Chine, Godard annonçait prophétiquement les événements de mai 68.
J'ai voulu montrer dans ce film qu'à mon avis, ce qui se passe de plus important aujourd'hui est la révolution culturelle en Chine. La Chine, tout à coup, s'est arrêtée de faire des films. Ils ont fermé les universités. C'est quelque chose qui me semble quelque chose de tellement fabuleux qu'on ne peut pas manquer d'être frappé par ça et de soi-même de réfléchir profondément à ce qu'on fait.
Mais t'es quand même d'accord avec moi, Francis, qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'université française. Même beaucoup de choses.
Et bien sûr. Ça se voit suffisamment. Et alors ?
Je suis bien d'accord que c'est même le grand problème, l'éducation.
Oui, c'est un des très grands problèmes. Et puis ?
Ben justement, tu ne trouves pas qu'il faut tout reprendre à zéro ?
Oui, mais comment ?
Bien d'abord, fermer les universités, comme en Chine.
Et comment tu vas faire ? Je comprends très bien ce que tu dis, mais ton idée ?
Ben fermer l'université.
Mais comment ?
Avec des bombes.
Avec des bombes ? Tu vas jeter des bombes, toi ? Mais à quoi ça sert d'aller tuer des gens si tu ne sais pas ce que tu feras après, si tu ne sais pas quel...
Mais on le sait, Francis, bon, qu'on va faire après.
Ah, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je ne crois pas du tout que vous le sachiez. Je crois que vous savez seulement que le système actuel vous est odieux. Et je crois que vous êtes terriblement impatient d'en finir avec lui.
Il n'est pas odieux, il est mauvais.
Étonnant ce dialogue, François Nemer. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a été écrit en s'inspirant de mai 68, qu'il a été écrit après mai 68. Or, il date de 1967 dans le film La Chinoise, et à une époque où personne, ni le pouvoir, ni les partis d'opposition, ni les syndicats, ni même les étudiants, n'imaginaient ce qui allait se passer quelques mois plus tard à Paris.
Oui, absolument.
C'est prophétique, La Chinoise.
C'est prophétique, oui. Cela dit, au fond, Godard a pu voir ceci parce qu'il était là. Il était dans le milieu étudiant. Il avait rencontré une étudiante, Annie Wiazemski,
qui deviendra sa femme.
Qui deviendra
après
sa femme.
Anna Karina, oui.
Absolument. Une sorte de renouvellement, en quelque sorte, de son univers, puisqu'il découvre des gens qui pensent sur la société. Et il découvre aussi tout ce bouillonnement de la fac de Nanterre. Et il décide de la filmer et de faire parler ces gens.
Avec des acteurs qui ne sont pas très connus. En tout cas en tant que tel. Par exemple, l'homme qu'on a entendu, c'est qui? C'est Francis Janson, c'était le porteur de valises de la guerre d'Algérie. C'est assez extraordinaire. Parfois il faisait appel à des acteurs renommés. Là, c'était Francis Janson lui-même qui dialoguait avec cette jeune étudiante. Alors, c'est pas le premier film politique de Godard, vous le rappelez, François Nemer. Il y avait déjà, dès 1960, et ça évoquait la guerre d'Algérie, notamment la torture, Le Petit Soldat, mais qui a été interdit.
Oui, tout à fait. Mais c'était un film à sujet politique, mais ce n'était pas un film engagé. C'était un film d'ailleurs sur l'engagement, mais avec un point de vue un peu littéraire. C'est l'engagement à la Drieux ou à la Malraux, l'un ou l'autre, de droite ou de gauche au choix. Mais c'est autre chose.
Oui, alors vous voulez dire que c'est en fait plus tard qu'il s'engage réellement. Il y a quand même des films, vous évoquez aussi un film, dites-vous, très méchant, qui est Week-end, hein, qui est une satire évidemment de la société de consommation. Il y a aussi ces engagements quand même qui apparaissent en 68. Par exemple, vous me direz, il n'était pas le seul dans ce cas-là, toute la nouvelle vague y était, il défend Langlois lorsque Malraux veut le faire quitter la Cinémathèque de Paris.
Ah oui, tout à fait. Là, c'était en quelque sorte la répétition générale de 68, hein, l'affaire Langlois. Et surtout, c'était la première fois depuis pas mal de temps que les gens de la nouvelle vague se rassemblaient sur un projet commun. Ils avaient en fait, ils s'étaient dispersés en quelque sorte après le départ qu'on connaît.
Et cela quelques jours avant mai 68, qui a eu lieu aussi bien d'ailleurs au Quartier Latin à Paris que sur les marches du Festival de Cannes, beaucoup plus sage aujourd'hui qu'il y a 38 ans, mai 68, quand Godard, dans une cohue indescriptible, fermait le festival.
Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici.
Vous avez une mitraillette?
Je souhaite que le festival s'arrête.
Oui, mais...
Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans.
Et c'était Godard en 68. Godard qui avait dit un jour « Le travelling est une affaire de morale » et qui ce jour-là, en 68, en fermant le festival, considérait qu'au contraire, la morale voulait qu'on arrête les travelling.
Ah, ça, c'est totalement typique de Godard que de dire une chose et son contraire et d'avoir raison des deux côtés. Car effectivement, l'obsession de sa vie, c'est de trouver la morale, l'esthétique, voire la politique du cinéma. Et d'un autre côté, bien entendu, dans ce type d'extrait, il déclare qu'il n'y a pas que la technique, il y a aussi les significations.
Oui, et alors une signification politique. Là, cette fois-ci, il s'engage réellement. Il se retrouve avec un militant marxiste-léniniste, Jean-Pierre Gorin, pour créer un groupe qu'il appelait lui-même une cellule qui fait politiquement du cinéma politique, le groupe Dziga Vertov.
Absolument.
C'était quoi ce groupe?
Oh, c'était un groupe totalement informel.
D'abord, peut-être
alors, Dziga Vertov est un cinéaste russe de la période bolchevique, c'est-à-dire des années 20, et qui, en fait, est un cinéaste expérimental et qui a fait un cinéma politique dans les rues, dans les campagnes, avec un art du montage extrêmement poussé. C'est-à-dire que c'est à la fois du cinéma populaire et expérimental. Et c'est évidemment ce qui intéressait Godard. Et c'est ce qui lui a... Et aussi, surtout, il y a un rapport au documentaire. C'est-à-dire que Godard, à cette époque, voulait se rapprocher du documentaire, voulait se rapprocher du réel, parler de ce qui se passait réellement.
Voilà. Et il est fasciné aussi par une autre technique qui est la vidéo.
Oui. De la même manière, la différence entre le cinéma et la vidéo, enfin une des différences, c'est surtout l'immédiateté. C'est-à-dire quand vous filmez en vidéo, vous avez le résultat devant vous. Hein. En quelque sorte, c'était un des maîtres mots du groupe Xavertov, c'est faire du montage au moment du tournage. Penser à ce qu'on va penser au résultat dès le moment où on tourne et où on est dans l'action.
Il faisait, disait Jean-Pierre Gorin, des ovnis, des objets visuels non identifiés. Alors c'est vrai que ce cinéma-là, on le connaît mal, il n'est pas tellement passé en salle quand il y est passé. Il était à l'époque aussi avec une femme, sa troisième compagne, après ses deux premières femmes, Anne-Marie Mieville, avec laquelle il part en Suisse en 77. On a souvent dit que c'était pour échapper au fisc.
Non, c'est vraiment n'importe quoi. Non. En fait, le moment où il rencontre Anne-Marie Mieville est probablement la fin de sa période politique. Godard a un très grave accident au moment de ce film si curieusement nommé « Tout va bien ». Et à l'occasion de cet accident, il se met à penser et il se met en fait à prendre des distances par rapport à son existence militante. Et il décide de se replier sur, disons en quelque sorte, un atelier. Cet atelier, il va le mettre à Grenoble, ensuite en Suisse. Disons, suivant Anne-Marie Mieville, qui est comme lui une Suisse de Lausanne.
Oui, parce qu'il est Suisse, en fait.
Oui, et il est franco-suisse, très exactement.
Quitte à être à l'étranger, autant l'être vraiment. La Suisse, c'est l'Israël de l'Europe, disait-il. Quitte à être exilé, autant être exilé chez soi. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il fait encore deux films à gros budget, avec des acteurs réputés, sauf Qui peut la vie, avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie Baye, Détective, avec Johnny Hallyday, Nathalie Baye. Ça, c'était pour financer un film qui lui fera scandale et qui n'est pas un gros budget initialement, c'était je vous salue Marie. Ça fait un gros scandale aussi.
Oui, ça fait un certain scandale, mais bon, c'était un scandale, disons, très circonstanciel. Hein. C'était quelques activistes religieux qui se sont offusqués qu'on touche soi-disant à la figure de Marie. Bon, ça fait parler du film, en effet. Mais la question des gros budgets ou petits budgets n'est pas réellement le plus important dans cette affaire, puisque grosso modo, il n'arrête pas de tourner.
Oui, il n'arrête pas.
À tout prix et dans toutes les conditions.
Il tourne des films qu'on voit peu, hein, beaucoup moins que ses premiers films. Et puis pendant une vingtaine d'années, on entend d'ailleurs pratiquement plus beaucoup parler de lui. On l'écoute cependant au micro d'Eva Bétan au Festival de Cannes en 2004, il y a deux ans.
Est-ce que vous dites je fais mes films et puis voilà, qui les regarde, peu importe le nombre, ou est-ce que ça vous touche qu'il y en ait moins qu'avant ?
Mais il n'y en a jamais eu beaucoup. Là, j'en reviens pas d'avoir de pouvoir être encore vivant avec sur 104 films 100 qui n'ont pas marché, si vous voulez. Donc comment ça s'est fait, je ne sais pas.
Beaucoup de cinéastes qu'on rencontre, vous êtes, je dirais, plus qu'une référence dans tous les pays. Oui. Godard, qu'est-ce que voilà, ils disent Godard.
Mais c'est des hypocrites.
Comment?
Mais c'est hypocrite, il m'enverrait des chèques sinon.
Et extraordinaire que Godard, dont tout le monde en effet a entendu parler, dont tout le monde connaît le nom, dont on se réclame, dont certains cinéastes, hypocritement dit-il, se réclament, que cet homme soit si seul. On a le sentiment vraiment d'une très grande solitude. Peut-être au fond toute sa vie d'ailleurs.
Très exactement toute sa vie, en effet. Si on pense à trois périodes de sa vie, c'est-à-dire la période, disons, Nouvelle Vague, où grosso modo il a cherché une famille et ça fait cette famille l'a quitté, la famille cinéphilique en quelque sorte, ou la seconde où il a cherché une famille militante qui l'a déçu, ou une troisième où il a trouvé, en quelque sorte, un foyer. Et il a cherché aussi à s'ouvrir au monde et aux questions historiques, etc. Mais il a toujours été absolument solitaire.
Mais même les salles dans lesquelles sont tournés ces derniers films, vous en dites le plus grand bien, mais c'est vrai que peu de gens ont vu JLG ou l'histoire du cinéma, histoire au pluriel. Mais c'est un peu vide. Et pourtant, vous le dites, François Némer, il a laissé beaucoup au cinéma. Le cinéma lui doit beaucoup. Et si oui, à qui a-t-il servi ? Quels sont, autrement dit, en quelque sorte, les héritiers de Godard, s'il y en a ?
Les héritiers de Godard sont, ou seraient, ou devraient être tous les cinéphiles. D'abord par la beauté brute de son œuvre et aussi par la richesse de son propos. Mais son propos est un propos sur le cinéma, c'est-à-dire que c'est un propos essentiellement abstrait. Et à mesure qu'il a avancé dans sa carrière, son propos est devenu en effet de plus en plus abstrait, de plus en plus introspectif. Il s'est mis dans une position de Montaigne en quelque sorte, réfléchissant au sens de la vie, au sens de l'individu, au sens, etc. Donc ce propos est difficile. Il est voulu comme difficile. difficile et il est normal qu'il n'attire pas grand monde. Et il est aussi normal que, vu sa qualité, son influence soit grande.
Mais qui inspire-t-il ? On évoque parfois Tarantino.
Oui, Tarantino, tout simplement parce que Tarantino s'est positionné comme un fan. Il a appelé sa maison de production Bande à part. Il a cité notamment de Pulp Fiction, etc., des passages entiers de Godard. Mais qui a-t-il influencé ? Vraiment énormément de gens. En son temps, Fassbinder, par exemple, qui considérait Godard comme un modèle, pas à copier, mais à considérer. En fait, le problème est très simple. Soit on considère Godard comme une boîte à outils, chose qu'il déteste, mais qui a quelques validités. Soit on le considère comme un artiste qu'on contemple, dont on apprécie l'œuvre. Mais dans ces deux cas, il a apporté énormément.
Merci François Nemaire. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Godard, le cinéma, paru chez Gallimard dans la collection Découverte. À lire également Histoire au pluriel, du cinéma de Jean-Luc Godard, réédité en 2006 chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films, À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg, disponible en DVD chez Gaumont, Le mépris avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, disponible en DVD chez Criterion, ainsi que La Chinoise avec Anne Wiazemski et Francis Janson, édité en DVD chez Optimum World. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Anstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.